le magazine des Nations Unies.
Bonjour, au sommaire de cette édition, Maman Sidikou était cette semaine devant le Conseil de sécurité à New York où il a présenté son rapport sur la situation de la RDC. Pour le chef de la MONUSCO, il y a des risques réels de voir la République démocratique du Congo sombrer dans le chaos. Un résumé succinct du message du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC dans ce magazine. Et pendant que Maman était à New York, Zainab Awa Bangoura passait son cinquième séjour en RDC. La représentante spéciale en charge des violences sexuelles dans les zones en conflit était venue évaluer avec les autorités congolaises les engagements conjoints pris dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et contre l'impunité. Enfin, le 15 octobre, c'était la journée mondiale du lavage de mains, un événement qui a tout son sens en RDC, un pays en proie depuis le début de l'année à une épidémie de choléra. Dans ce magazine, vous suivrez un fonctionnaire du bureau de l'UNICEF RDC sur cette journée. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La situation de la République démocratique du Congo à l'ordre du jour au Conseil de sécurité. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Maman Sambo Sidikou, a présenté le 11 octobre 2016 devant cet organe de l'ONU le rapport sur la MONUSCO, un rapport qui traite notamment des questions politiques et sécuritaires qui caractérisent actuellement la RDC. Mireille Bukasa Mukendi nous en fait l'économie.
D'après Maman Sidikou, la situation politique demeure extrêmement fragile en RDC, ce qui contribue aux tensions accrues et à un risque réel de voir la situation se dégrader davantage. Et malgré les efforts déployés par le facilitateur Eden Kodjo, le processus du dialogue n'est pas aussi inclusif que l'on aurait souhaité. Il a dans son discours rappelé qu'au cours de l'une des assises du dialogue national, la CENI a annoncé que la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales en un seul jour ne serait techniquement possible que le 18 novembre 2018. Cette annonce a suscité des vives contestations de plusieurs partis politiques de l'opposition qui estiment que la CENI aurait été instrumentalisée dans le but de maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir. Et pour conclure, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a souligné que la période à venir sera certainement difficile, d'où a déclaré Maman Sidikou, je cite, « Je crois que ce conseil devrait rester activement saisi de la situation et éventuellement chercher à échanger régulièrement avec la MONUSCO dans les prochains mois. » Fin de citation.
Quittons New York pour notre deuxième actualité de la semaine, retour à Kinshasa, où Madame Zainab Awa Bangoura a séjourné du 9 au 15 octobre 2016. C'est le cinquième voyage en RDC de la représentante spéciale du secrétaire général en matière de violences sexuelles dans les conflits armés, Honoré Missenga Kalala.
Le but de ce cinquième voyage de Madame Zainab Awa Bangoura était d'évaluer l'accord signé en 2013 avec le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Trois ans après, les résultats se sont avérés encourageants, a-t-elle constaté, parce qu'au cours des deux dernières années, les violences sexuelles ont reculé de plus de 50% en RDC. La représentante spéciale donne ici les facteurs qui ont contribué à cette performance dans des propos interprétés en français par Yulu Kabamba.
Il y a trois ans, si vous vous souvenez, nous avions signé un accord avec le gouvernement pour mettre en place une structure pour permettre au gouvernement de lutter contre ce fléau et aussi de voir dans quelle mesure les Nations Unies pouvaient leur apporter d'appui pour ce faire. En ce moment-là, Kinshasa a été désigné comme étant la capitale de viol. Nous avions alors une stratégie nationale élaborée avec le gouvernement, avec l'aide de la communauté internationale. Et je suis resté en ce moment-là pendant deux semaines et au cours de nos entretiens. J'ai passé près d'une semaine à travers le pays, en dehors de Kinshasa, surtout à des endroits où les violences étaient commises. J'avais mené des actions auprès de plusieurs entités, les entités des Nations Unies, la société civile, les entités militaires, la police, etc. L'une des recommandations que nous avons formulées en ce moment-là, c'était que le gouvernement puisse mettre en place une structure qui serait chapeautée par un représentant personnel du chef de l'État, qui devrait dépendre directement de lui, mais qui travaillerait en collaboration avec les Nations Unies. Il y a eu également un comité créé au sein du Sénat pour mener de plaidoyer, particulièrement par rapport aux violences qui se commettaient à l'Est. De notre côté, nous avons mis en place une structure pour assurer la cohésion et la coordination au sein des Nations Unies. Les militaires ont élaboré un plan d'action. Nous avions prévu de ce fait une assistance financière et technique en faveur du bureau qui est géré par Madame Janine Mabunda. Et donc, nous avons pu rendre possible la réduction de 50% des violences sexuelles commises.
Après l'étape de Kinshasa, où elle a eu aussi à rencontrer le président de la République et d'autres autorités gouvernementales du pays, Madame Bangoura a poursuivi sa visite au nord et au sud Kivu. Dans ces deux provinces, elle a eu aussi des entretiens avec notamment les autorités provinciales, visité l'hôpital Il Africa de Goma et l'hôpital de Panzi, ainsi que la fondation du docteur Mukwege à Bukavu.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 15 octobre marque depuis 8 ans maintenant la journée mondiale du lavage de mains. Une journée dont le but est de sensibiliser les populations du monde sur l'importance de se laver les mains au savon ou à la cendre comme moyen de prévention, notamment contre les maladies diarrhéiques. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est particulièrement impliqué dans les actions relatives à cet objectif. C'est pourquoi, dans cette rubrique, le MAG UN a reçu en marge de cette journée Franck Abeille, chef des sections WASH au bureau de l'UNICEF RTC. Suivez-le dans cet entretien, toujours avec Honoré Missenga Kalala.
Franck Abeille, bonjour.
Bonjour.
Depuis 2008, l'UNICEF et beaucoup des nations célèbrent le 15 octobre la journée mondiale du lavage des mains. Quel est l'intérêt de cet événement?
Je pense que le principal intérêt, c'est vraiment de pouvoir mettre en lumière une pratique qui est indispensable au quotidien. Indispensable pourquoi? Parce qu'avec ce geste relativement simple, à des moments clés, on peut éviter beaucoup de maladies, on peut éviter le choléra, on peut prévenir la malnutrition, on peut être en bonne santé et se consacrer à d'autres tâches de manière quotidienne.
Et c'est sous quel thème est célébrée cette journée en 2016?
En 2016, on s'est axé tout simplement sur faire du lavage des mains une habitude. Rappeler à tout le monde que c'est quelque chose, en fait, doit être inné, c'est quelque chose qui doit se faire inconsciemment à chaque instant, qui prend pas de temps et qui permet d'améliorer son quotidien.
Alors Franck, le lavage des mains concerne tout le monde, mais pourquoi pour l'UNICEF la principale cible ce sont les enfants?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le mandat de l'UNICEF effectivement qui est de se consacrer principalement aux enfants et aux mamans. Ensuite il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'on oublie peut-être parfois, c'est le rôle de prescripteur que jouent les enfants. Dans les communautés, au niveau des écoles, au niveau familial, ils sont présents à tous les niveaux et les enfants sont les générations de demain, sont ceux qui vont éduquer leur propre descendance ensuite après, ce sont ceux qui véhiculent les messages et qui les gardent tout au long du cycle de vie. Donc il est normal de se consacrer d'abord sur eux et ensuite ce sont surtout les plus fragiles, aussi les plus vulnérables à tout ce qui peut être infection, maladie et autres.
Oui, cela étant, comment concrètement donc le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est-il impliqué dans les objectifs de la journée mondiale de la lavage des mains?
Pour l'UNICEF, ce qui est important, c'est d'être le plus visible et le plus présent pour cette journée. Alors c'est vrai qu'il y a des actions de communication à un niveau national et international qui se font. Plus précisément, en RDC, on travaille avec toutes les institutions. On demande également aux partenaires de se mobiliser, de nous faire remonter les informations, de nous faire remonter les actions que eux font autour de cette journée pour assurer le maximum de visibilité. On travaille également étroitement avec différentes institutions. Par exemple, demain, on aura le ministre de la Santé qui va se joindre à nous dans une école pour aller promouvoir également cette pratique. Et dans toutes les zones aussi où le choléra est présent, on renforce nos actions et on continue d'accentuer la sensibilisation.
Oui, alors, parlez-nous effectivement de la situation actuelle du choléra en RDC. Comment l'UNICEF compte appuyer le gouvernement de la RDC dans la lutte contre cette maladie? Et quel est le lien entre finalement le choléra et le lavage des mains?
Le choléra, c'est avant toute chose une maladie qu'on appelle la maladie des mains sales. Ensuite, aujourd'hui, effectivement, on fait face à une épidémie très très importante à travers tout le pays. On est à plus de 22 000 cas depuis le début de l'année, ce qui est largement au-dessus de l'année précédente. On retrouve de tels niveaux en 2011-2012. Il faut savoir que pour l'instant, on a quand même eu près aujourd'hui de 500 décès liés au choléra cette année, ce qui est très très important. On retrouve également le choléra dans des zones qui ne sont pas toujours habituées en ce moment à cette maladie. Toute la partie ouest du pays est fortement impactée, alors que traditionnellement parlant, on retrouve trouve peut-être plus la maladie côté est et sud du pays.
Surtout le long du fleuve Congo.
Le bassin du fleuve Congo est un très très grand foyer. Et là où c'est assez compliqué, c'est que ce sont des zones qui sont isolées, où il y a peu de partenaires, où il est compliqué de se déplacer. Et tout simplement, quand on travaille avec des populations qui n'ont pas l'habitude de la maladie, ben leur capacité de résistance est bien plus faible. Ils n'ont pas les bonnes pratiques, les bons usages. Et là où, pour nous, ça peut paraître évident, entre autres, de se laver les mains, pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas quotidien. Donc, c'est un foyer ou un nid supplémentaire pour cette maladie.
Oui, alors, par rapport à ces situations que vous venez d'évoquer, quelle est l'action de l'UNICEF?
Nous, au travers de l'UNICEF, on se consacre sur différents plans. Un premier plan, effectivement, qui est tout ce qu'on appelle la partie sensibilisation. Comment travailler de manière efficace pour que les populations comprennent ce qui doit être fait dans ce type de situation. On a ensuite une partie qui va être plus prévention et réponse. Donc, on va supporter ce qu'on appelle les divisions provinciales de la santé à travers des donations. Alors, ça peut être du chlore, ça peut être des équipements qui leur permettent d'intervenir, de mettre en place des points de chloration également pour que les personnes puissent avoir accès à de l'eau propre. On va avoir également un support avec des partenaires qui connaissent la maladie, qui savent comment intervenir dans des situations. Et on a aujourd'hui quelques, ce qu'on appelle vulgairement des PCA dans notre langage, mais quelques accords avec des ONG qui savent comment travailler. Et également ensuite on assure une coordination très forte avec ce qu'on appelle le cluster. C'est-à-dire on réunit tous les acteurs autour d'une table, on discute de ce qui se fait, ce qui doit se faire, où est-ce que ça doit se faire, comment on priorise, quels sont les fonds disponibles, et donc bien sûr toute la partie de plaidoyer auprès de toutes les institutions, les partenaires, pour mobiliser autour de l'épidémie actuelle.
Oui, il y a également le programme Village École Assainie.
Tout à fait. Alors le programme Village École Assainie, lui, se dessine plutôt comme une réponse durable. Il faut savoir que ce programme a une certaine vision, prend un certain temps à se développer, mais est une très bonne solution complémentaire pour permettre de renforcer la prévention, mais à hauteur d'un an et demi, deux ans. Donc ce qui compte, c'est il y a une stratégie assez simple qui existe dans la réponse choléra, qui est ce qu'on appelle la stratégie bouclier et coup de poing. Donc, quand une épidémie arrive, on applique cette stratégie et tant que possible, on voit avec le gouvernement, avec les institutions locales également, pour pouvoir développer le programme Village École Assainie qui, entre autres, implique un savoir assez poussé au niveau du traitement de l'eau, du lavage des mains et de l'hygiène à domicile.
Alors, comme dernier mot, on revient à la célébration de la journée mondiale du lavage des mains. Quel message voudrait bien faire passer le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à ce propos?
Alors, je pense qu'on peut vraiment revenir sur ce que je disais initialement. Le lavage des mains doit être une habitude. Le lavage des mains doit être inconscient et doit être inné. Quels que soient les moments de la journée où il est nécessaire de le faire, faites-le. Rappelez-vous que on pourrait se mémoriser de manière assez simple les actions à prendre. Elles se comptent sur les doigts d'une main. Il y a 3 actions avant, 2 actions après. On doit se laver les mains avant de manger, avant de préparer un repas, avant d'allaiter. On doit se laver les mains après être allé aux toilettes et on doit se laver les mains après avoir changé la couche du bébé. Déjà en faisant ça, on se prémunit très largement, entre autres, du choléra, mais également de toutes les autres maladies liées à une mauvaise hygiène.
C'est laver les mains avec du savon?
Pas forcément. Le savon est un produit qui a un certain coût, donc c'est pas accessible pour tous. Il existe des solutions beaucoup plus simples. On peut prendre de la cendre quand vous avez fini la cuisine, et si celle-ci est faite avec du charbon de bois ou du bois ou d'autres, vous prenez la cendre et ça suffit largement pour vous laver les mains. Il faut aussi que ce soit fait avec de l'eau, si possible, de qualité, mais en tout cas la cendre ou le savon. On peut même parler dans les villes en général avec les personnes qui peuvent y accéder. Acheter, il y a des petits flacons aujourd'hui antibactériologiques. Ce sont différentes solutions, mais ce qui est important, c'est de le faire avec les éléments que l'on a à disposition, donc cendre, savon principalement, et d'autres produits ensuite annexes.
Franck Labeille, merci beaucoup.
Je vous remercie, bonne journée.
L'actualité en bref, d'abord le 16 octobre, c'est aujourd'hui, la journée est consacrée, journée mondiale de l'alimentation. Cette année, elle est placée sous le thème « Le climat change, l'agriculture et l'alimentation aussi ». Un thème qui appelle à l'adaptation. Et pour le représentant de la FAO en RDC, Alexis Mboté, avec son potentiel agricole, la RDC peut nourrir 2 milliards de personnes dans le monde si elle arrive à s'adapter aux effets du changement climatique. D'une journée à une autre, le mardi 11 octobre, c'était la journée mondiale de la jeune fille. En RDC, l'UNICEF a mis à profit cet événement pour mettre en évidence la situation qu'il qualifie de préoccupante au regard des violences de toutes sortes dont la jeune fille est victime. D'après cette agence onusienne, malgré l'adoption de la loi portant protection de l'enfant en 2009, les jeunes et les petites filles seraient encore victimes de violences basées sur le genre, particulièrement le mariage précoce et le travail domestique. Enfin, du côté de la police de la MONUSCO, Yuan Paul, retenez que 40 policiers de la police nationale congolaise, dont 7 femmes, sont en formation à Bunia depuis le lundi 10 octobre. Une formation d'une durée de 5 mois et dont l'objectif est de prévenir et lutter contre la criminalité au chef-lieu de la province de l'Ituri. Cette formation est financée par l'EPNUD et mise en œuvre par la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Deux audiences ont eu lieu cette semaine à la Cour pénale internationale pour décider sur la réparation au profit des victimes des crimes commis par Thomas Lubanga. Après la première audience intervenue le mardi 11 octobre, Patrick Tshibui, en charge de la sensibilisation au bureau de la CPI-RDC, a expliqué à Radio Kapi en quoi consiste cette réparation. Le MAG UN revient sur l'entretien qu'il a accordé à Paul Matendo.
Patrick Tshibui, bonjour.
Bonjour.
La Chambre des juges de la CPI a tenu une audience publique ce mardi 11 et une autre audience s'éteindra le 13 octobre 2016 concernant la réparation pour les victimes des crimes commis par Thomas Lubanga. Que peut-on dire sur ces audiences ?
Ces audiences font suite à l'ordonnance du 15 juillet 2016 par laquelle la Chambre de première instance 2 avait invité les États concernés ainsi que les organisations qui le souhaitaient à déposer des observations sur des projets collectifs actuels ou passés en faveur des ex-enfants soldats dans l'Est de la RDC et à lui présenter également des propositions de projets collectifs afin de contribuer à l'établissement d'un ensemble de projets de réparation collective au bénéfice des ex-enfants soldats victimes de Thomas Lubanga. Ainsi donc, l'audience du 11 octobre est celle qui aura lieu le 13 octobre. Dans cette audience, les représentants légaux des victimes, le bureau du Conseil public pour les victimes, l'équipe de défense de Thomas Lubanga répondront aux observations écrites et orales qui ont été déposées. Et étant donné que le fonds profit des victimes avait été enjoint par les juges de compléter le projet de plan de mise en œuvre de réparation collective, la Chambre a considéré également qu'il convenait d'inviter le fonds profit des victimes à cette audience afin qu'il puisse soumettre ses observations sous les observations écrites et orales qui ont été déposées. Parmi les organisations qui avaient déposé leurs observations écrites, vous en avez deux qui avaient explicitement demandé l'autorisation au juge de pouvoir déposer des observations orales lors de l'audience. Il s'agit de Women's Initiatives et Child Soldiers International. Et les juges avaient autorisé à ces deux ONG de pouvoir déposer leurs observations orales. Donc, en fait, pendant ces deux jours, il s'agira de discuter des observations qui ont été donc déposées suite à l'ordonnance du 15 juillet 2016, à la demande des juges.
Combien de victimes sont concernées par cette réparation et comment s'est fait à leur identification?
Pour le moment, le nombre n'est pas connu. La participation réparation, il est important de le rappeler, elle est volontaire. Et l'ordonnance du 15 juillet 2016 de la Chambre de première instance, qui est au fait de la Chambre qui s'occupe de la réparation dans l'affaire Lubanga, dans cette ordonnance, les juges avaient également ordonné aux greffes d'assister les représentants légaux des victimes, c'est-à-dire les avocats des victimes, de les assister ainsi que le fonds profit des victimes dans la localisation et l'identification des victimes potentiellement éligibles aux réparations dans l'affaire.
Concrètement, comment va s'appliquer cette réparation?
C'est important de souligner aussi le fait que les juges ont décidé que les réparations se feraient sous forme de programme et non pas sous forme monétaire, mais plutôt sous forme de programme qui sera donc mis en œuvre au bénéfice des victimes des crimes dont M. Thomas Lubanga a été condamné.
Alors, pourquoi la Cour opte-t-elle pour une réparation collective ou communautaire au lieu d'une réparation individuelle?
Les juges avaient considéré que le nombre des victimes était un élément important et c'est cet élément important qui a donc abouti à un choix pour les réparations collectives considérées comme étant les plus appropriées. Mais il est important de faire relever la différence entre réparation collective et réparation communautaire. C'est tout à fait différent. C'est vrai que dans les réparations collectives, ces dernières visent plusieurs personnes, mais ce n'est pas la communauté tout entière qui est visée. Ce n'est pas les habitants d'une localité qui sont visés. Ce ne sont pas les habitants d'une communauté qui sont visés. Seuls les membres de la communauté qui ont été victimes des crimes dont M. Thomas Lubanga a été reconnu pourront bénéficier de ces réparations collectives.
D'où proviennent ces fonds exactement?
Les fonds qui vont permettre l'exécution du plan de mise en œuvre des réparations, une fois que ce plan sera approuvé par les juges, les fonds qui vont permettre d'exécuter ce plan proviendront du fonds profit profit des victimes. Pourquoi ? Pour la simple raison que M. Thomas Lubanga a été reconnu indigent et donc, de ce fait, il n'a pas les moyens pour répondre aux réparations et les juges ont donc décidé que les réparations seront mises en œuvre par le fonds parce que le fonds profit des victimes a un double mandat, un mandat d'assistance et également un mandat de réparation. Et dans le cas où, par exemple, l'accusé est reconnu coupable mais n'a pas les moyens pour faire face aux réparations parce qu'il était indigent, les juges peuvent décider que les réparations seront faites par le biais du fonds profit des victimes. Mais la chambre d'appel a, dans son arrêt, insisté sur le fait que l'accusé est celui qui doit répondre des réparations. Et dans le cas d'espèce, dans l'ordonnance du 3 mars 2015, la chambre d'appel a spécifié que si le fonds profit des victimes avançait les fonds, étant donné que M. Thomas Lubanga était indigent, le fonds pourrait, à une date ultérieure, réclamer à Thomas Lubanga les fonds ainsi avancés.
Le fonds au profit des victimes est déjà présent à Ituri, lieu des crimes. À ce stade de la procédure, quelles actions mène la Cour là-bas ?
Actuellement, puisque nous n'avons pas encore une décision sur les réparations, nous attendons cette décision sur les réparations que les juges rendront. En attendant d'avoir cette décision sur les réparations, le fonds au profit des victimes est en train de mettre en œuvre son mandat d'assistance. Donc le mandat d'assistance, c'est un mandat qui permet au fonds de fournir assistance aux victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour en apportant une réhabilitation physique, une réhabilitation psychologique et un soutien matériel au niveau individuel et communautaire.
Patrick Tchouboui, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Deux projets d'intérêt communautaire au bénéfice des femmes victimes de violences sexuelles et des jeunes à Getty, dans la chefferie de Walendubindi, à environ 60 km au sud de Bunia, dans la province de l'Ituri. Ces projets financés par la MONUSCO à hauteur de 150 000 dollars américains ont été inaugurés mercredi 12 octobre dernier. Et le détail avec Martial Kizabiamungu.
Les premiers projets ont consisté à la construction des centres des savonneries artisanales et de la coupe et couture pour des femmes violées et traumatisées par les affres des conflits armés. Selon les responsables de l'organisation non gouvernementale Les Bons Samaritains qui a exécuté ces projets, plus de 200 femmes sont concernées par cette activité. Il indique que ces femmes ont bénéficié d'une formation sur les techniques de fabrication des savons et la gestion des projets pendant une période de 6 mois. Cette activité impliquera les femmes des 5 groupements. Il s'agit des Kilikou, Baziba, Bamuko, Buloma et Zadou. Pour la représentante des femmes de Walendubindi, cette activité génératrice de revenus aidera non seulement les bénéficiaires à s'y prendre en charge, mais aussi leur permettra de s'impliquer dans la recherche de la paix et dans cette entité victime des affres de guerre, cela plus d'une décennie, comme le dit Zawadi Anoliti.
Nous sommes vraiment déterminés à bien gérer ces projets parce que cela contribue d'abord à l'autonomisation de la femme et aussi cela donne une valeur à toutes les femmes de la chefferie de Walendubindi. Concernant la maison construite par la MONUSCO à travers la section Char, cette maison d'échange communautaire aussi facilitera aux femmes de défendre leur droit de parler de la paix. C'est comme nous avons dit dans notre groupe, nous voulons que les femmes de Walendubindi soient des ambassadrices de paix parce que c'est elles qui demeurent toujours victimes de toutes violations commises dans cette entité avec le phénomène FRPI.
Le deuxième projet concerne un centre d'apprentissage pour les jeunes composé de 6 salles dont celle de la coupe et couture et des réunions. La MONUSCO a équipé ce centre de 4 ordinateurs pour la formation en informatique et des motos pour la pratique automobile. Selon la mission des Nations Unies en RDC, tous ces projets s'inscrivent dans le cadre du projet en impact rapide pour un coût d'environ 153 000 dollars américains. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez cette question posée mercredi au cours de la conférence des presse des Nations Unies, ainsi que la réponse de Barbara Matasconi du Bureau conjoint des droits de l'homme.
Merci pour la parole, c'est Fori Katumba, pour le compte de l'explorateur. Bilou Tshibala, de l'IDPS, secrétaire général adjoint, Il s'est rendu à Bruxelles pour des soins médicaux. A été interpellé. Est-ce que vous suivez cette situation à la loupe? Car nous sommes dans une période de turpitude politique, y compris nous les journalistes. Quel type de garde-fou que vous mettez en sorte que nous soyons sécurisés et que même les leaders politiques soient sécurisés?
Notre bureau suit de près la situation de M. Tshibala. Depuis l'arrestation, depuis son passage dans le bureau de l'OPJ délimité, puis chez le procureur général de la République, jusqu'au transfert à Makala à 5h ce matin, on est en train de vérifier quelles sont les charges portées contre lui et on essaiera de suivre les procédures judiciaires et de s'assurer que son droit au procès équitable est respecté. De même pour la question des journalistes et des opposants politiques, aussi bien que pour les défenseurs des droits de l'homme, qui pour nous sont des groupes auxquels on paye particulièrement d'attention.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Nana Bolodjaï Aleomoto, je suis mariée et mère de 4 enfants, dont des jumeaux. Je suis journaliste avec une licence en édition multimédia, même si j'ai toujours exercé comme animatrice radio. Parce que ce que je pourrais peut-être souligner ici, c'est que j'ai commencé à travailler avant d'intégrer l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ça, c'était en 2001. Donc, ça signifie que je suis dans le métier depuis à peu près 15 ans, par là. Alors, au sein de la MONUSCO, plus précisément la Radio Capi, je suis en charge de l'émission Découverte. C'est une émission de 3 heures diffusée en mi-journée sur toute la semaine, c'est-à-dire que l'émission passe de lundi à vendredi de 13h à 16h sur Radio Capi, sur l'antenne nationale. Et mon travail consiste à préparer l'émission, les interviews, les sujets, évidemment avec l'appui de certains collègues après concertation ou réunion d'équipe. Alors, depuis combien de temps? Je suis arrivée à Radio Capi en septembre 2004. J'ai fait plusieurs émissions, mais celle que je pense qui m'a réellement propulsée, c'était La Matinale, l'émission d'ailleurs pour laquelle j'avais été engagée ici en 2004. Et j'ai fait La Matinale durant 3 ans, de 2004 à 2007. Et bien plus tard, j'ai présenté l'émission Zigzag. Alors mes tâches quotidiennes, comme je l'ai dit, j'anime l'émission de la mi-journée, c'est de préparer les sujets, préparer les interviews, choisir les invités, préparer les micros. Dans notre jargon, quand on dit préparer les micros, c'est-à-dire préparer les annonces et les désannonces des chansons, savoir un peu comment introduire une belle désannonce après une chanson. Donc c'est ça qu'on appelle préparer les micros. Alors comment est-ce que je gère mon temps libre? C'est un peu parfois difficile, mais sinon je suis principalement occupée dans ma vie de famille, c'est-à-dire avec mes enfants et mon époux. Après il y a la famille élargie, mes parents, mes frères et sœurs, et puis il y a aussi les amis. Je m'occupe aussi dans les activités récréatives et sportives avec les enfants. Et en dehors de ça, donc une vie sociale normale, sortir, boire, manger, rigoler, un peu se détendre, parce que j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de très important pour l'épanouissement d'un être humain. Mes préférences, musique, sport, je suis d'abord très très fan de la musique congolaise. J'adore la musique, j'aime beaucoup la rumba congolaise. Je suis fan de notre musique et très fière de notre culture, la culture congolaise, tellement je la trouve diversifiée, mais à la fois c'est une musique qui fédère. Ça veut dire où qu'on soit, au Congo, quand on écoute, on sait que ça, ça vient des Mongos, ça, ça vient des Luba, ça, ça vient des Nandés, ça, ça vient des Swahili. Et tout ça, c'est ça qui crée l'identité culturelle congolaise. Et ça, je trouve que c'est très magique. Et en dehors de ça, j'aime aussi tout le genre de musique. J'aime le slow, j'aime le R&B, j'aime le rap. Je suis fan de bonne musique. J'aime la salsa et j'adore danser aussi. Pour le sport, je suis fan de natation, même si je ne pratique pas beaucoup. Sinon, la marche, le footing, je pense aussi que c'est des choses qui sont très bien pour notre condition physique. Ouf, les projets d'avenir, il y en a tout plein. Il y en a beaucoup, mais il y a 2 projets qui me prennent principalement à cœur depuis à peu près 6 mois. C'est que j'aimerais développer dans notre pays le marketing politique d'abord et la promotion de nos valeurs et coutumes congolaises. Donc ce sont des projets, je l'espère, que je pourrai réaliser dans un avenir très proche. Voilà mes projets.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Une date à marquer dans vos agendas, 17 octobre, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. C'est la fin de ce magazine mis en onde par Dieudonné Nyangasa, préparé par Honoré Missengakalala sous la supervision de Martin Sebujangwe. Moi, Suzanne Dobo-Audra, j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Merci et à la prochaine.